Merci de ta présence, Seigneur, ce soir encore. Tu es là toujours, Seigneur fidèle. Tu nous le dis dans ta parole que tu es là, mais on le sait par la foi que tu es là, et aussi par ton esprit qui remplit notre cœur de ta paix et de ta joie. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu fais dans nos vies pour nous fortifier. Merci de ce que tu vas faire encore ce soir parmi nous, Seigneur, pour nous, ce que tu vas nous révéler, tu vas nous faire comprendre dans ta parole, qu'on puisse graver tes versets, Seigneur, ta pensée dans notre esprit, dans notre cœur, et que ce soit vécu dans nos vies à tous les jours. Qu'on puisse vraiment agir, Seigneur, comme si on était des missionnaires sur cette terre, ici à Châtelguay. Qu'on puisse avoir ta vision des choses. Oui, merci de ce que tu vas parler à nos cœurs encore ce soir, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à ton précieux nom. Un verset que j'aime beaucoup, qu'on va regarder, mais j'aimerais que deux personnes, tantôt, on va avoir besoin de deux personnes pour lire un passage dans la parole de Dieu. J'aurais besoin de deux volontaires. Oui, tu pourrais-tu me lire Jean 7, 50 à 52 quand que je vais le demander, OK? Puis, une autre personne, un autre volontaire. Oui, Jean 19, 39 à 42. Mais avant, je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup, qui nous remet pas mal dans le contexte du plan de Jésus dans nos vies. C'est un verset qu'on a déjà lu à plusieurs reprises, dans Jean 15, 16. Ça nous dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » Jésus qui parle, il dit, « Je vous ai choisi et je vous ai établi. » Où ce qu'on est présentement ici à Châteauguay, c'est Jésus qui nous a établis ici. Puis dans les villes et les villages environnants aussi. « Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Afin que vous alliez. On est placé présentement selon le plan du Seigneur, son plan qu'il avait eu dans sa préscience. Il voyait d'avance qu'on accepterait Jésus, qu'on accepterait le chemin qui nous était présenté. Puis là, il dit, « Je te présente mon plan. » Nous autres, on l'a saisi. Maintenant, je t'établis, je te place là où ce que t'es, là. Je veux t'utiliser. Je veux que tu y ailles partout où je t'ai placé, puis je veux que tu portes du fruit. Sommes-nous capables ce soir de dire, « Je suis à l'endroit où ce que Dieu me veut. » Sommes-nous capables de dire ça ce soir? « Je suis à l'endroit où ce que Dieu me veut, puis le Seigneur a plein d'œuvres qu'il a mis devant moi afin que je les pratique. » Le Seigneur a mis devant moi plein d'œuvres afin que je les pratique, à l'endroit où ce que je suis présentement. Merci Seigneur pour sa parole. On pourrait arrêter juste avec ça et partir pour le reste de notre vie. Mais le Seigneur veut élargir notre vision ce soir, là-dessus. Souvent on entend ça, puis moi je l'ai même pensé quand j'étais jeune sauvé. « Ah, oh, si je serais missionnaire au Mexique, là, je pourrais partir faire de l'évangélisation, je pourrais y aller à tous les soirs pour aller faire du porte-à-porte, aller prêcher dans les rues, dans les parcs, où je pourrais aller aider les pauvres, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Si je serais missionnaire, comme ça serait quelque chose à atteindre bien plus tard. » Ou, d'un autre côté, « Ah, ben moi, je suis pas un missionnaire, moi, je suis rien, moi, je suis rien qu'un simple disciple, fait que là, je vais m'asseoir, je vais attendre d'avoir un titre ou d'attendre d'avoir un poste, puis on bouge pas non plus. » À quelque part, le Seigneur veut nous ramener dans une pensée, il veut élargir notre vision, que nous sommes présentement tous des missionnaires, chacun de vous, vous êtes assis ici, vous êtes missionnaires ici, à Châteauguay et dans les environs. Il vous a déjà transporté d'un endroit à un autre pour que vous soyez missionnaire. Vous étiez dans le royaume des ténèbres, puis maintenant vous êtes dans le royaume de lumière. Vous avez déjà changé de camp. Vous avez déjà fait le voyage pour vous rendre à l'endroit où ce qu'il voulait que vous soyez pour pouvoir servir à son œuvre. Il vous a établi, puis il vous a choisi, mais il vous a établi où ce que vous êtes. Vous êtes déjà des missionnaires pour travailler pour lui. Merci Seigneur. Autant que le Seigneur va guider ces missionnaires-là dans l'endroit où ils sont, au loin, pour aller partager la parole et faire ci, faire cela, autant qu'il veut vous diriger ici, dans la région de Châteauguay, à faire un paquet d'œuvres qui va servir pour sa gloire, puis que votre fruit demeure, afin que votre fruit demeure. quand vous allez arriver dans la vie éternelle, c'est ces fruits-là que vous aurez ramassés à Châteauguay que vous allez recueillir et qui vont demeurer éternellement. Et tiens, amen à ça. On continue à partie numéro 19. Conseil sur divers comportements. Vu qu'on est des missionnaires, vu qu'on n'attend plus de partir en dehors pour commencer à travailler, ou qu'on vienne de réaliser qu'on a été nommé à un poste, on est déjà des responsables devant Dieu. On a déjà le titre de missionnaire. Vous êtes chacun de vous un missionnaire pour le Seigneur, puis déjà il s'attend à ce que vous produisiez des choses. Le Seigneur veut vous faire réaliser que partout ce que vous passez présentement, dans Châteauguay, partout ce que vous êtes, quand vous allez travailler, ou quand vous êtes parmi votre famille, ou que vous êtes avec vos amis, vous êtes en train de faire l'œuvre de missionnaire auprès d'eux. Même si vous connaissez avant, ça n'a pas d'importance, le Seigneur vous dit que vous êtes des missionnaires ce soir, à partir d'aujourd'hui, voyez-vous comme des missionnaires. Il faut saisir cette vision-là, je suis un missionnaire, moi, ici, à Châteauguay. Pas à cause que le Seigneur m'a envoyé outre-mer, mais à cause qu'il m'a envoyé outre-royaume. J'étais dans les ténèbres, je suis rendu dans le royaume de la lumière. Je suis devenu un missionnaire pour Dieu. Puis il veut que tu réalises que tous les contacts sont autour de toi. C'est des contacts que le Seigneur veut atteindre par ton entremise. Le Seigneur veut que tu penses à agrandir le cercle de tes relations. Parce que c'est sûr, une fois que tu as atteint tous les ceux qui étaient autour de toi, tu penses que là, tu n'as plus d'œuvre à faire, mais il y en a plein d'autres personnes autour, un petit peu plus loin, au-delà de notre cercle de relations qu'on est habitué de rencontrer régulièrement. Le Seigneur veut que tu aies une vision un peu plus élargie. Élargis ta pensée. Étends ton cercle de relations. Tu es un missionnaire pour moi. J'ai préparé des œuvres pour toi. Je veux que tu voyes plus grand. Je veux que tu puisses atteindre d'autres limites que tu n'avais pas encore atteintes. Je veux que tu le saves que tu es un missionnaire, puis je t'envoie au-devant de ces gens-là pour que tu ailles leur parler de ma parole, leur parler de ce que j'ai fait pour toi. Ouvre ton horizon. Agrandis ton cercle de relations. On a déjà entendu une prophétie qui disait « Élargis tes cordages ». Ça veut dire ta tante, quand elle était piquée de même, il y avait un piquet, là, tu décides de l'enlever, ton piquet, parce qu'il était planté sur ton terrain. Tu l'enlèves de là, t'élargis la corde, « Pasteur, mon terrain va jusque là. » T'élargis ton cordage, c'est plus là ta limite. Puis tu peux aller bien loin, le Seigneur ne t'empêchera pas de t'étendre. Au contraire, il veut qu'on s'étende, il veut qu'on s'élargisse. Savez-vous, comme le verset nous dit, « Nous sommes le sel de la terre. » Mais si le sel reste dans la poche, il ne peut pas faire fondre la glace. Si le Seigneur dit « Allez », quand il nous dit « Je vous ai choisi afin que vous alliez », si on décide de rester, qu'est-ce qui va se passer? On ne fera aucun effet dans ce monde. Notre job qu'on était supposé de faire en tant que missionnaire, on ne l'aura pas fait. Puis les fruits qu'on aura dû récolter pour la vie éternelle, les fruits durables, ils ne seront pas là. On va arriver à l'autre bord, puis notre valise de fruits, elle ne sera pas épaisse. Des fois, il y en a peut-être qui vont avoir des chariots pour traîner le fruit, puis il y en a d'autres qui vont s'emmener avec le petit baluchon, avec un petit bâton, puis un petit sac en arrière, puis c'est juste ça qu'ils ont ramassé. Pour réaliser qu'on est en train de se ramasser des fruits qui vont demeurer éternellement. Puis si on pense en tant que je suis un missionnaire ici, là je t'établis pour un bon bout, là je dois élargir mon champ de travail, puis je dois élargir mon champ de contact. Il faut commencer à penser à se faire des contacts à long terme. Il y a des gens que ça prend du temps avant qu'ils acceptent Jésus. Faut pas que tu les lâches. Tous les fois que tu les vois, tu les arroses. Tu t'en remets toujours à Dieu, c'est Dieu qui fait croître, mais t'arroses. Tu sais qu'à long terme, ça va finir par porter du fruit. Même s'il est négatif en partant, à la fin, c'est qu'il va donner sa vie au Seigneur. Si on élargit notre champ de vision pour atteindre plus de gens, puis on se dit, je travaille comme à long terme, comme les missionnaires font dans d'autres pays. Avez-vous déjà remarqué ce passage-là à propos de Nicodème? On a entendu parler dans parole quand Jésus il a rencontré Nicodème, qui est un docteur de la loi. Nicodème, il était curieux de savoir ce que Jésus avait à dire, puis pendant la nuit, il est allé le rencontrer pour aller y parler, puis il voulait savoir c'était quoi cette histoire-là, naître de nouveau. Jésus lui a expliqué. On voit un peu plus loin dans la parole, ça c'est dans Jean, dans l'évangile de Jean qu'on voit ça, dans Jean 7, le verset 50, qu'est-ce que Nicodème a commencé à faire un peu plus tard, après en avoir entendu parler? Nicodème, qui était parmi ceux des Juifs qui étaient en train de persécuter Jésus, puis étaient en train de planifier pour condamner Jésus, il était parmi le groupe. Lui, il avait déjà entendu parler de la parole de Dieu quand il avait rencontré Jésus de nuit. Mais là, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Son esprit se réveillait, il a commencé à prendre la défense à Jésus. Il dit, notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'ait entendu? Il commençait à prendre position pour Jésus. Un peu plus loin, on le revoit encore avec ses disciples, dans Jean 19, 39 à 42. OK. Oui. Avez-vous vu dans ce passage-là, on voit qu'en premier, Nicodème est un docteur de la loi, puis il est à contre Jésus. À un moment donné, il s'en va rencontrer Jésus, il écoute les vérités, mais il cherchait, il voulait savoir qu'est-ce qui se passait, ça le tracassait. Il écoutait les vérités, qu'est-ce que ça a fait? Il a fini par prendre position pour Jésus, pour le défendre, pour essayer d'empêcher les méchants qui voulaient comploté contre Jésus, puis un peu plus loin, il était avec les disciples, puis il travaillait avec les disciples. Il est allé avec Joseph pour aller embaumer le corps de Jésus. Ça, c'est un exemple pour nous montrer des contacts à long terme. Comment est-ce que des fois, on peut penser, « Oh, cette personne-là est avec un groupe de telles personnes, il n'y a rien à faire avec eux autres, je n'irai pas lui parler de la parole. » Il ne faut pas s'arrêter à ça. Les paroles qu'on annonce, c'est sûr si la personne ne veut rien savoir et ne veut pas nous écouter. On n'est pas obligé de lancer nos perles vers les pourceaux, comme Jésus dit, afin que si on se détourne, ils commencent à se servir de ça pour nous détruire. Sauf, si la personne écoute le moindrement, il ne faut pas avoir peur en élargissant nos contacts, de rencontrer des groupes de personnes autour que peut-être on n'aurait jamais osé aller les voir, ou peut-être qu'on se dit jamais ces personnes-là vont accepter Jésus parce que c'est une gang qui ont même de l'air être contre Jésus. C'était comme la secte, c'était comme le groupe religieux qui menait tout le peuple juif dans ce temps-là. Ils faisaient marcher le peuple dans des lois qu'eux autres mêmes n'étaient pas capables de grouiller le petit doigt, puis ils mettaient des pesants fardeaux sur les gens. Puis ce groupe-là était prêt à tuer Jésus qui était le Messie. Puis il était dans la gang. Faut pas s'y aux apparences. Faut pas gêner de pouvoir parler de la parole à ceux qui nous entourent. On le sait qu'à long terme, le Saint-Esprit va faire un œuvre dans leur cœur. Il faut faire confiance au Saint-Esprit qui va convaincre leur cœur. Puis ceux que le Seigneur connaît déjà dans leur cœur, le Seigneur, dans son cœur, il connaît déjà qui va accepter. Moi, je ne sais pas, mais lui, il sait. Il y en a peut-être dans ce groupe-là. Faut pas que je sois gêné d'aller au-devant de ceux que j'aurais jamais osé aller, il faut que je rouvre la bouche puis de m'attendre qu'un jour ils puissent venir à accepter Jésus comme Nicodème. Le Seigneur veut qu'on enlève un paquet de faux raisonnements qu'on va voir en cours ce soir, mais ce n'est pas réellement des faux raisonnements. Des fois, c'est une manière de réagir ou des comportements qu'on a adoptés, puis qu'on a, on est comme catégorisé ou catalogué ou bien caricaturé, on se fait comme des prototypes, là, qu'on reste dans ce sens-là, puis on n'ose pas dépasser cela. Le Seigneur veut nous enlever de nos yeux que les gens du dehors, là, sont pas plus méchants que les chrétiens qui sont en dedans. Pas dans le sens qu'ils sont pas pécheurs, on le sait que tous sont pécheurs. Saviez-vous que Jésus était ami des gens de mauvaise vie? Dans Matthieu 11, 19, ça nous dit, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. » Jésus était, il mangeait puis il buvait. Je dis pas qu'il s'enivrait, mais il a pris du vin avec des gens de mauvaise vie. Il était assis à table avec eux autres, puis il leur parlait de la parole, puis... Il n'essayait pas de dire, as-tu vu cette gang de ci, puis de ça, puis de ci, as-tu vu comment ils sont, puis l'autre il a fait ci, puis l'autre il a fait ça. C'était pas ça son sujet de conversation. Il aimait, c'est un ami des gens. Il essayait d'être un bon gars avec tout le monde qui l'entourait. Malgré le fait que certaines fois, il était obligé de parler assez droitement, ou assez sévèrement, ou assez directement à certaines personnes, mais dans l'ensemble, il était l'ami de tout le monde. Puis il cherchait à aller s'asseoir avec eux autres. On n'y aurait peut-être pas été s'asseoir avec ces gens de mauvaise vie-là. Quand on voit une prostituée sur le bord du chemin, qu'est-ce qu'on regarde? Hein, qu'est-ce que tu as vu cette fille-là? As-tu vu la manière qu'elle s'habille? As-tu vu la manière qu'elle est maquillée? As-tu vu qu'elle a de l'air provocante? As-tu vu ci? As-tu vu ça? C'est rien que des jugements puis des critiques. Au lieu de penser que Jésus, lui, il a accepté que c'était une fille comme ça, qui est venue pleurer sous ses pieds, qui a essuyé ses pieds avec ses cheveux, puis elle a embrassé les pieds, puis que Jésus, il dit que ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle l'a aimé. Puis que nous autres, on doit comme s'ouvrir notre esprit et arrêter de juger ces gens-là, puis aller au-delà de ce qu'on a arrêté avant dans notre petite barrière, aller au-delà pour aller rejoindre même ces gens-là, pour être amis avec, afin de se faire des contacts à long terme, puis de voir un jour ces personnes-là accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et tiens, amen à cela. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses non plus distinction si c'est une personne qui est riche ou c'est une personne qui est pauvre. Dans Jacques 2, il nous dit, « Mes frères, qu'à votre foi, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute exception de personne. Supposons en effet qu'il rentre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, puis qu'il rentre aussi un pauvre misérablement vêtu. » Là, on porte nos regards sur le riche, puis toi, assis-toi à cette place d'honneur, puis l'autre au pauvre, assis-toi à mon marchepied. Il dit, ne faites-vous pas des jugements avec des pensées mauvaises. Le Seigneur veut qu'on enlève nos barrières qu'on se met quand on voit quelqu'un de bien habillé ou de mal habillé. Que ce soit une personne du dehors qui a fait des pires péchés qu'il a fait, puis qu'il s'est habillé de la manière que ça voudra. Ça n'a pas d'importance. On ne doit pas porter plus d'importance à un ou qu'à l'autre. Ces deux personnes, ces deux âmes devant Dieu, deux âmes perdues, les deux ont besoin de recevoir la vérité, la bonne nouvelle, puis ils sont égaux devant Dieu, riches ou pauvres. C'est un péché devant Dieu de commencer à regarder plus vers le riche que le pauvre. C'est ça que ça nous dit dans ce passage-là. Puis si on est prêt à dire, « Oui, Seigneur, je vais élargir mon champ, je vais aller rejoindre les gens pauvres, comme les riches, je vais aller rejoindre les prostituées, les pécheurs, les gens de mauvaise vie, autant que ceux qui ont de l'air à mener une bonne vie. » Dans Actes 10, 28, c'est l'apôtre Pierre qui parle, il dit, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Dieu m'a appris à regarder aucun homme comme souillé ou impur. Est-ce que Dieu nous aurait appris ça? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'on voit une personne souillée ou impure, qu'on la considère souillée un peu, qu'on est prête à lever le nez, commencer à les critiquer, à regarder leurs défauts, puis à commencer à les pointer du doigt, commencer à les descendre, plutôt que d'avoir un cœur de compassion comme Jésus avait, d'aller s'asseoir avec ces personnes-là, puis de leur manifester de l'amour, leur parler du plan de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut qu'on arrive à faire. Si je suis un missionnaire à long terme ici, toutes ces personnes-là qui m'entourent, il y en a de toutes ces catégories-là. Autour de nous, ici à Châteauguay, il y a des riches et des pauvres, il y a des prostituées, il y a des gens de mauvaise vie, il y a des gens qui ont de l'air, si on se fie aux exemples de que certains jugements, ils ont de l'air souillés ou impurs, c'est des gars qui sont sur la brosse, qui sont dans le péché, sont dans la drogue, puis ils sont dans des bouches, ça couche avec les filles, puis ça sac à tour de bras. Faut jamais regarder une personne comme étant souillée ou impure. Si on commence à regarder dans ce sens-là, on vient au-dessus de se mettre une barrière, qui est un jugement du Seigneur, dans un sens, par rapport qu'on est en train de juger une personne, puis là on est dans le péché, on est en train d'attrister le Saint-Esprit, puis on empêche le Saint-Esprit de faire son œuvre à travers nous autres pour rejoindre cette personne-là. Il ne faut pas penser que les missionnaires, quand ils sont dans d'autres pays, ça l'organise à tous les jours des grosses campagnes d'évangélisation, puis ils sont partis à des gros meetings, des grosses réunions à tous les soirs, puis à tous les après-midi, puis à tous les matins. Non. Une fois de temps en temps, il y en a, mais la majorité du temps, ils vivent leur vie comme s'ils sont installés là, puis ils vivent là, comme nous autres, on est installés ici, puis on vit ici. Puis c'est le contact de tous les jours. Ils aident une personne. Ils soignent une autre personne. Ils vont faire du bénévolat une place. Ils vont faire de l'entraide communautaire. Ils vont parler de Jésus de porte à porte ou sur un coin d'une rue ou avec une guitare ou tout seul ou avec en groupe. Toutes les petites affaires qu'on est en train de faire, qu'on organise, ils vivent la même chose en étant missionnaires ailleurs. Puis nous autres, on doit arriver à avoir la même vision, qu'on est des missionnaires ici. Puis toutes ces petites choses-là, qui est un travail à long terme, c'est dans le but de rassembler toutes les celles qu'on n'aura jamais osé aller voir pour les inviter à venir. Il ne faut pas attendre qu'on ait une vision du Seigneur, une apparition, des rêves, ou qu'un ange, l'ange Gabriel, nous apparaisse pour venir nous dire « Témoigne ton voisin qui est à côté de chez vous. » Ça devrait être naturel parce qu'on a de la compassion et qu'on a le désir de voir ce gars-là sauvé parce qu'on le sait qu'il s'en va en enfer s'il ne change pas de vie. Puis d'aller le voir tout bonnement parce qu'on l'a à cœur malgré ses défauts. Puis, hey, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a à la bonne nouvelle? Puis là, commencer à y parler du Seigneur. L'important, c'est de rechercher d'être dans la présence du Seigneur. Puis de se faire attention, pas attrister le Saint-Esprit avec nos jugements. À chaque occasion, parlons du Seigneur à ceux qui sont autour de nous autres. Agrandissons notre cercle de relations. Établissons de nouveaux contacts. Allons voir les gens religieux qu'on pense que jamais ils vont pouvoir accepter Jésus. Allons voir des prostituées, des gens de mauvaise vie, des personnes qui nous semblent être impures ou souillées. Mais sans juger personne. Là, l'action du Saint-Esprit qui va agir à travers vous va faire un impact dans leur vie, puis ils vont sentir l'amour de Dieu dans vos vies. Et en même temps, il ne faut pas se gêner de prier pour eux autres. Le Seigneur était là, puis toute cette gang-là qu'on vient de catégoriser, qu'on aura tout jugé dans cette catégorie-là, ça courait de toutes les villes et les villages pour venir toucher Jésus, ou afin que Jésus puisse en toucher un pour qu'il soit guéri. C'est ça qui est le plan du Seigneur pour nous autres, une vision à long terme. Si l'amour de Dieu pénètre nos cœurs, ben nous remplit, on va pouvoir vivre la même chose. Nos barrières qu'on s'est mis de préjugés et d'analyse charnelle, faut qu'ils s'enlèvent, puis qu'on ait les yeux de compassion que le Seigneur a pour atteindre ces gens-là. Si on continue dans la même pensée à partie numéro 20, il faut continuer à garder comme une bonne conduite. Si je suis un missionnaire, je suis placé ici, les yeux de tout le monde sont rivés sur nous autres. En tout temps, quand on est dans la maison chez nous, Il y a quelqu'un qui rentre, hop, ils vivent de même dans leur maison. On est à la job, hop, as-tu vu comment il se comporte envers son boss puis envers les autres employés autour de lui? On marche dans la rue, as-tu vu? On est toujours la cible. Il faut faire attention de la manière ce qu'on vit. Aux yeux des gens, il faut toujours avoir un bon témoignage. Être un bon gars. 1 Pierre 2,12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin même que là, ils vous calomnient comme vous étiez des malfaiteurs, mais ils remarquent vos bonnes œuvres. Puis glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parce qu'il y a un jour où Dieu va visiter cette personne-là. Puis ce jour-là, cette personne-là va glorifier Dieu de t'avoir rencontré. Si tu as eu un bon impact dans sa vie. Si tu l'as méprisé, tu l'as regardé de travers, tu l'as jugé, tu l'as critiqué, puis tu l'as repoussé parce que tu te pensais supérieur, tu n'auras aucun impact positif. Ils ont tout gardé. Puis quand ils vont accepter Jésus, pense pas qu'ils vont aller dans ton église. Il faut être un bon témoignage au travail. Que ce soit dans l'honnêteté ou dans la fidélité. En tant qu'enfant de Dieu, nous disons que souvent nous voulons que les gens voient quelque chose de différent en nous. Tu sais, des fois, on dit, moi, je suis un enfant de Dieu, puis je le sais que les gens voient de quoi être différent en moi. Je peux me le dire. Mais est-ce que les gens voient vraiment quelque chose de différent en nous? L'amour, elle doit nous motiver en tout temps. Quand on veut être un bon gars envers les gens, c'est parce qu'on les aime. Quand tu es ami des gens de mauvaise vie, c'est parce que tu les aimes. Puis quand tu l'aimes la personne, malgré ses défauts, l'autre le ressent que c'est parce que tu l'aimes que tu t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à l'écouter, à lui donner des conseils, à partager des bonnes paroles, puis l'autre personne va être marquée par ces choses-là. Jean 13, 35, il dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'argent et que vous vivez dans les richesses. » Non, c'est pas ça. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ah, mais là, ça va mieux. Là. C'est à ceci qu'ils connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour. Pas d'amour, on reconnaît pas ça que c'est un disciple. La joie, la paix, ça doit émaner de notre vie. Si on est toujours ces fardeaux, qu'on passe son temps à se plaindre de notre sort à tous ceux qui nous entourent, à se plaindre de ce qui se passe à l'église, à se plaindre de ce qui se passe dans la maison chez vous, à se plaindre de ce qui se passe avec d'autres personnes que tu connais, c'est loin d'être la joie et la paix. Romains 14, 17, car le royaume de Dieu, c'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Apprenons à marcher davantage par le Saint-Esprit, puis nous allons pouvoir expérimenter cette paix et cette joie. En tout temps, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en pratique à tous les jours. Le prochain point, dans Matthieu 5, 46, ça nous dit, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous saluez seulement vos frères, ça veut dire quand tu te promènes sur la rue, salut, 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 même si on ne les connaît pas, même si c'est notre ennemi, salut, salut. Il dit, si vous saluez même vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Quand vous allez être capable de saluer tout le monde qui vous entoure, avoir le sourire toujours jusque-là pour tout le monde. Une personne se retourne, se rencontre quelqu'un, il faut qu'elle voie ton sourire pour elle. C'est une face de bœuf. Ça veut dire que l'autre perçoit, tu n'es aucunement intéressé à cette personne-là. Aïe, as-tu vu la manière qu'il me regarde, lui? Il va-tu être intéressé lui-même, étant quelqu'un qui ne connaît pas l'amour de Dieu, de vouloir s'approcher de moi? Mais si je manifeste un sourire, hey, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ce gars-là, mais il me sourit à toutes les fois que je le regarde. Fait que même qu'on l'approche, il n'aura pas peur de nous autres. On va lui dire « Salut! » Lui, il va penser qu'on est chum, qu'on s'est déjà rencontré à quelque part. Mais ça, c'est l'amour de Dieu. Jésus était comme ça. Mais il faut être capoté pour le bien, non pas pour le mal. Parce que s'il ne voit qu'un air bête tout le temps, il va dire aussi qu'il est capoté, ce gars-là. J'aime autant être capoté dans le bien. OK. Bénissez et faites du bien, même pour ceux qui ne vous aiment pas. Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, c'est Jésus qui nous parle, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Si on continuera, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, parce qu'il fait lever son soleil sur les bons, sur les méchants. Et si je veux être à l'image de mon Père qui est dans les cieux, je dois être capable d'aimer mes ennemis puis de bénir ceux qui maudissent. C'est de même, parce qu'on est appelé à amener la bénédiction dans ce monde. Si je vais encore plus loin, partout ce que tu passes, partout ce que tu rentres, donne ta paix. Dans Luc 10, 5, 6, ça nous dit, dans quelques maisons que vous entriez, ça c'est quand vous êtes en train d'évangéliser, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle vous reviendra. Faut croire que quand on est en train de bénir quelqu'un, on dit que la paix soit sur cette maison, on vient de lancer quelque chose. On vient de lancer notre paix. Puis s'il y a une personne dans la gang qu'on est en train de parler dans cette maison-là, qui commence à s'intéresser, puis qu'elle va tomber sur lui la paix de Dieu. La bénédiction de Dieu va tomber sur cette personne. Sa vie, il va y avoir un changement qui va se faire parce que la grâce de Dieu va être sur lui. Ça, c'est quelque chose que le Seigneur veut qu'on apprenne à faire. Premièrement, qu'on apprenne à croire que quand on le donne, que le Seigneur te bénisse, quand on se rend compte, là, que le Seigneur te bénisse. Moi, je crois que ce que je suis en train de dire, que le Seigneur te bénisse. Je suis en train de penser que le Seigneur est en train de le bénir. Mais quand on rentre dans une maison, que la paix soit sur cette maison, mais il faut croire que la bénédiction, la paix de Dieu va tomber, puis ça arrivera que personne qui est intéressée, elle va vous revenir. Voulons-nous être des missionnaires? Est-ce qu'on commence à réaliser qu'on l'est missionnaire? Est-ce qu'on rentre dans le plan, je suis un missionnaire, je suis installé pour longtemps, là, je viens de partir d'un pays lointain qui était le royaume des ténèbres, là je suis installé pour travailler à gagner les âmes qui sont autour de chez nous. Comment est-ce que je dois travailler? Mais dans l'amour, dans la paix, dans la bénédiction, dans lancer la paix, à avoir de la joie, puis à saluer tout le monde, puis à avoir un sourire pour tout le monde, puis d'aimer les gens, puis de m'infiltrer, puis aller m'asseoir avec, puis de jaser avec, puis de les écouter, de leur parler du Seigneur, ça fait partie de quelqu'un ça fait partie du vrai stéréotype ou du prototype que le Seigneur s'attend de nous. C'est un enfant de Dieu, c'est un fils de son Père qui est dans les cieux, c'est quelqu'un qui vit l'amour de Dieu, c'est réellement un disciple. Y a-t-il un amen à cela?